le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue en cette période estivale. Cinérama va chauffer le chaud et puis le froid. Marine, bonjour.
Oui, bonjour. Alors moi, je vous propose deux ambiances complètement différentes, radicalement opposées aujourd'hui. Je vais vous parler de Dans les forêts de Sibérie, film de Safin Bou, et du Professeur de violon, un film brésilien.
Et puis moi, eh bien, je parlerai de La loi de la jungle, donc qui se déroule en Guyane, il fait bien chaud, et puis d'un traître idéal, où là, il est question d'un espion russe, donc il fait bien froid, on est d'accord. Et toi, Manu ?
Eh bien, un film qui est déjà sorti il y a un petit moment, hein, puisqu'il s'agit de Diamant Noir, et puis d'une sortie DVD, un film italien de Festa Campanile, La proie de l'autostop.
Qui dit autostop, dit aussi vacances, nous sommes raccords.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, l'extraordinaire séquence d'ouverture mérite à elle seule de voir ce film surprenant, donc Diamant Noir, qui, à défaut d'être un diamant, reste tout de même un petit joyau. Alors, la forme, influencée par l'exubérance plastique des thrillers baroques de Brian De Palma, impressionne d'emblée. Alors, un homme taille un diamant au ralenti lorsque la disqueuse sectionne sa main sous l'œil terrorisé de son frère. L'aspect cauchemardesque de ce moment virtuose n'a rien de poseur ni de gratuit. La violence à la limite du gore et l'élégance visuelle se mêlent très adroitement comme dans un rêve, ce que l'image légèrement floue accentue. Alors cet intro-choc n'est peut-être pas la réalité, juste la fixette d'un jeune homme, Pierre Ullmann, obsédé par la déchéance physique et mentale de son père. Lorsque ce dernier décède, il décide de se venger, persuadé de la responsabilité du frère de son père dans le destin funeste de sa vie chaotique. Car Pierre Ullmann vivote à Paris entre chantier et larcin qu'il commet pour Rachid, petit escroc notoire, mais aussi père spirituel. Alors, mouton noir d'une riche famille de diamantaires basée à Anvers, son père ne lui a rien laissé, hormis une soif amère de vengeance. L'entrée de son cousin va lui permettre d'échafauder un plan, le vol de diamants de quelques millions d'euros.
L'histoire de Victor Ullmann, né dans une famille de diamantaires à Anvers, en Belgique. Sa main a été broyée par une machine devant son frère qui n'a pas bougé pour l'aider.
Et là, là, là et là, c'est les caméras.
Il y en a pour combien ?
Il a parlé de 20 millions.
Je qui fait mal, je qui paye, je qui s'ouvre.
Premier long métrage d'un jeune cinéaste de 31 ans, aperçu dans la bataille de Solferino, Diamant Noir impressionne par sa maîtrise visuelle. Le scénario, très écrit, trop peut-être, mais j'y reviendrai, est porté par une mise en scène brillante et ample, d'une ambition assez rare dans le cinéma français. Alors les emprunts à James Gray, Brian De Palma, mais aussi à Coppola, n'écrasent pas ce mélange adroit de films noirs et de drames familial. Alors simplement parce que les références sont discrètes, elles coulent même de source et sont très habilement intégrées dans cette histoire prenante, interprété par des comédiens peu connus, mais unanimement remarquables. Alors le personnage de Pierre Ullmann est complexe et fascinant jusqu'au trouble. Il incarne un peu une figure de l'anti-héros ambigu, à la fois calculateur et en même temps à la recherche d'une nouvelle famille. Alors la peinture du microcosme des diamantaires évoque celui d'une mafia, mais légale, sans qu'intervienne le moindre crime. La fascination que l'on éprouve pour des gens qui appartiennent à la haute société n'est pas sans équivocité ni gêne. Mais bon, le réalisateur Arthur Harari ne déifie pas ses personnages. Il ne les méprise pas non plus. Ils ont leur part d'ombre, mais demeurent tous attachants, y compris l'oncle de Pierre, qui devrait logiquement être le salaud de service. Mais sans dévoiler le dénouement cruel et tragique, disons que rien n'est jamais si simple que ça. Alors pourquoi Diamant Noir, ce film audacieux original, ne convainc pas totalement ? Sans doute parce que le scénario, demeurant complexe, n'est pas sans faille. Alors, des personnages sont curieusement abandonnés, notamment toute la jambe féminine, et d'autres appartiennent à un cinéma de genre trop typé, à l'instar de Rachid. Alors, pourtant interprété par, alors j'espère que je vais bien le prononcer, Abdel Hafed Benotman, qui est dans la vie un vrai gangster et poète, mais décédé juste avant le tournage. Alors c'est d'ailleurs cette greffe entre le polar pur à la José Giovanni avec Casse à la clé et la tragédie familiale shakespearienne qui ne prend pas toujours. La préparation du vol de diamants est trop sommaire, vite expédiée au détriment d'une peinture beaucoup plus passionnante d'une famille déchirée par des secrets lourds à porter. Alors ne boudons pas notre plaisir, hein, Diamant Noir est vraiment un thriller tendu et très prometteur. Arthur Harari pourrait devenir un cinéaste important, dans le rôle de Pierre, alors Neil Schneider, aperçu chez Xavier Dolan, et puis dans un film qui s'appelait Les Rencontres après minuit, est épatant. Alors c'est un peu la révélation du film, alors que dans les 2-3 films que je l'avais vu, il avait été assez fade.
Et justement, je pense qu'on va le voir de plus en plus, parce qu'il est également dans le film chilien dont je vous parlerai la semaine prochaine, voix off. Voilà. C'est le seul acteur français dans le film chilien.
Voilà. Alors nous passons des diamants au violon avec un film qui sort bien après la fête de la musique.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Oui, donc c'est le professeur de violon de Sergio Machado. Laerte est un violoniste très doué qui a voué sa vie à son art, mais lorsqu'il se présente aux auditions pour l'Orchestre National du Brésil, le trac le fait échouer. Par dépit et par besoin, il accepte de venir enseigner le violon aux adolescents de Heliopolis, la principale favela de Rio. Laerte se heurte d'abord à ses adolescents rebelles et illettrés, mais finalement comprend que ses cours de violon sont bien plus pour eux qu'un loisir. C'est une façon de les faire sortir de leur quotidien difficile et une chance pour lui également de grandir à leur contact.
VR Rebeca Tati. Não, que é isso?
Anísio.
Bon, on va couper quand même assez rapidement parce que c'est insoutenable. Alors, probablement avez-vous déjà, en entendant le pitch du film, cette curieuse impression de déjà-vu. Un professeur en prise avec des élèves difficiles qui va d'abord avoir des difficultés à gagner leur confiance, puis va réussir à instaurer une estime réciproque. C'est pas très étonnant parce que je pense que vraiment ce scénario s'est retrouvé, à mon avis, dans quelques dizaines de films. De Esprit Rebelle avec Michel Pfeiffer, en passant par Entre les Murs ou encore Alf Nelson avec Ryan Gosling. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Alors du coup, la mise en scène n'étant pas à la pointe de l'originalité, on s'ennuie quand même assez rapidement, tant l'ensemble du film est prévisible, voire tire-larme, voire même aussi peu crédible à certains moments. Notamment la scène finale, hein, quand même, où le petit dealer qui n'a jamais assisté à ses cours de violon se transforme miraculeusement en musicien chevronné. C'est pas vraiment réaliste. C'est juste très émouvant, mais c'est pas très réaliste. Alors de plus, si vous êtes comme moi, pas franchement adepte du violon, bah les 2 heures du film risquent d'être un supplice, car la plupart des scènes en fait montrent des gens qui jouent faux. Hein, c'est un peu le principe du film, ils doivent apprendre. Et du coup, c'est pas toujours très agréable. Alors le réalisateur Sergio Machado a auparavant été directeur de casting sur le film de Walter Salles, entre autres Central do Brasil. Il est donc assez logiquement très concerné par l'importance du choix des acteurs. De ce côté-ci, rien à dire. On retrouve ici un éclectisme volontaire. Des acteurs issus du théâtre côtoient des stars de la télévision, tels que le comédien principal, tout en étant également entouré de comédiens non professionnels. Et le casting est plutôt réussi. Alors, reste aussi le plaisir quand même de voir un film brésilien, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit vraiment légion. Mais malgré le fait que le réalisateur s'est joué sur la corde sensible, c'est le cas de le dire, on n'a pas vraiment l'impression qu'il dise quelque chose du Brésil d'aujourd'hui, de sa jeunesse, hormis quelques clichés que justement on retrouve déjà dans tous les films. Voilà, le professeur de violon, c'est un petit drame honnête, sans grande envergure, c'est pas non plus un ratage total. C'est donc à découvrir à partir du 22 juin au cinéma.
Donc on pourrait presque préférer Les Choristes. Hein.
Enfin, Alors là, c'est vraiment de poids de mesure, hein, j'ai envie de dire.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique. Cinérama.
Ce film est fait pour vous. Si vous aimez la neige, si vous préférez la pluie, si vous aimez prendre l'avion, si vous préférez le bateau...
Vous comptez nous sauver avec ça ?
Si vous n'aimez pas vous faire tripoter...
Non, je déteste ça.
Ou si vous changez d'avis, ce film est fait pour vous. Avec Vima Laponce.
C'est moi.
Vincent Mackay.
Ah, saloperie de nature, hein ! Saloperie de nature !
Pascal Légitimus. Mathieu Amalric et Jean-Luc Bidot. Ici, vous êtes en Guyane.
En route pour le pôle Nord.
Alors, même si vous préférez les livres au pognon, blanc, jaune, noir, orange, vert, bleu, vous êtes susceptible d'aimer La Loi de la Jungle.
Et cette bande-annonce a été coupée, elle est bien plus longue, c'est une espèce de bande-annonce réclame. Alors après La Fille du 14 juillet, comédie burlesque déjantée emmenée par Vima Laponce et Vincent Mackay, sortie en juillet 2013. Voici La loi de la jungle qui sort d'ailleurs à peu près à la même époque. Alors on ne peut pas dire que ça soit mal choisi puisque dans La fille du 14 juillet, on voyait des bouts de seins, des maillots de bain et quelques nudistes. Eh bien ici, c'est à peu près la même recette, Vim à la ponce en pom-pom short, parfois nu ou demi-nu, une entrée en matière donc pour appréhender l'été. Alors vu comme ça, La loi de la jungle apparaît comme une comédie légère, on pencherait pour du Max Pécasse ou un film des Charlots, années 70 et 80, On vous aime. Mais n'allons pas si vite, nous ne sommes pas dans la baie du désir, la nuit la plus chaude ou les branchés à Saint-Tropez. Ça t'évoque quelque chose ?
Les branchés à Saint-Tropez, oui, c'est
Max Pécasse.
J'ai dit quoi, les brochets ?
Les brochets, ce qui aurait pu être un film de pêche, ça aurait été intéressant.
Ça aurait pu, mais non, c'est bien les branchés à Saint-Tropez, effectivement. Mais donc, nous sommes dans La loi de la jungle. Le pitch est simple. Marc Châtaigne cherche un énième stage et se pointe au ministère de la Norme. Alors, on lui propose une mission en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier Guyanège, un complexe qui sera la première piste de ski indoor d'Amazonie. Sa fonction, relancer le tourisme en Guyane. Alors, il y a agité comme un épouvantail hein, le pont de l'Oyapock. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire. C'est un pont qui a été construit entre la Guyane et le Brésil. Ça a été décidé par Chirac et relancé par Sarkozy. Ça a coûté 50 millions. Et le pont n'est toujours pas en fonction alors qu'il est achevé hein, depuis au moins 5 ans. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de route du côté brésilien. Voilà. Alors ça, il en est question dans le film. Hein. Alors, en partant de Paris et en voyant le ministère, on se doutait que l'administration n'était pas triste, mais en arrivant en Guyane, eh bien, on comprend que c'est pire. Là-bas, notre stagiaire, interprété par Vincent Macken, donc, fonctionne en duo avec une autre stagiaire, Vim à la ponce, ce qui va tout compliquer, on s'en doute. Alors, c'est toujours effectivement compliqué de parler d'une comédie, surtout quand sa recette repose sur le burlesque et on est donc plutôt visuel. Hein. Mais même si quelques dialogues font mouche, La loi de la jungle repose sur des situations auxquelles sont confrontés les personnages et l'invraisemblance de celles-ci. C'est un film d'aventure loufoque avec un personnage à part entière, la Guyane et sa jungle. Alors, tout autant que l'organisation administrative du bout du monde, qui est quelque peu moquée, c'est bien dans la jungle que nous allons évoluer. Une jungle jamais belle, hein, d'ailleurs, aucune image esthétisante ne vient parasiter le propos, mais une jungle, au contraire, pleine de boue, d'arbres extravagants, de plantes envahissantes, d'insectes insignifiants ou étonnants, et d'hommes également. Alors, Pere Jaco s'amuse des clichés, il suffit qu'on pose le pied en Guyane pour apercevoir des mygales qui surgissent de partout. Les moustiques sont évidemment là, les vers sont prêts à manger. On y croise des serpents plus ou moins dangereux et par-delà ces clichés, le réalisateur s'emploie à offrir une comédie bon enfant traversée par une dynamique fantaisiste comme on n'en a pas vu depuis longtemps et précisément depuis La fille du 14 juillet. Alors dans La fille du 14 juillet, on décelait le désenchantement de mai 68. Ici, c'est un regard sur ce bout de terre coloniale qui sert d'allégorie au monde moderne. Alors, du début à la fin, il n'y a quasiment aucun répit. On est emmené dans un univers surréaliste, burlesque, politique, libertaire et outrancier. Il joue avec le spectateur, se permettant même une mise en abîme rarement osée au cinéma, me semble-t-il. Quoique ça me rappelle un Godard, je vous prends en témoin. Un des personnages, à un moment, porte un t-shirt avec tous les soutiens du film, au dos du t-shirt.
Pas Made in USA ?
Oui, c'est un Godard, voilà. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que dans la bande-annonce, il y a beaucoup plus d'images que ce qu'on voit dans le long-métrage. Preuve qu'il y avait moyen de faire une version longue, voire un tout autre film. La loi de la jungle est actuellement dans les salles.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Eh bien, après La loi de la jungle, on va enchaîner sur La loi de la taïga. Voilà, la transition de rêve. Et donc sur dans les forêts de Sibérie, film dont le titre ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Teddy rêve de liberté, de grands espaces, de fuir sa vie citadine. Il abandonne son existence en France pour tenter la vie sauvage, seul, au fin fond de la Sibérie. Donc, il se retrouve livré à lui-même et s'aperçoit rapidement que cette expérience n'est pas à la portée du premier citadin venu.
Je suis venu me rapprocher de ce que je ne connais pas. Le froid. Le silence. L'espace. Et la solitude. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre. Parce que mes jours le sont. Ne désirez pas plus que ce que l'on éprouve. et savoir se faire accepter par la nature. J'ai quitté le caveau des villes et vécu un an dans l'église des Taïgas. Un an. Comme une vie.
Voilà, et le film est accompagné par la musique de Ibrahim Malouf, comme on pouvait l'entendre. Alors, Teddy donc, va rencontrer Alexei, ermite russe, qui, à la différence du jeune français, habite aux abords du lac Baïkal par nécessité pour se cacher de la police. Les deux hommes vont alors commencer à s'entraider et à tisser une amitié qui n'aurait sans doute jamais vu le jour dans un autre contexte. Alors, dans les forêts de Sibérie, c'est un peu le Into the Wild à la française, une aventure humaine où l'homme se surpasse, adaptée d'un roman qui est lui-même une histoire vécue. Il s'agit en l'occurrence ici du livre éponyme de Sylvain Tesson, qui racontait son propre périple en Sibérie et qui a reçu le prix Médicis en 2011. Safin Nebou, le réalisateur, a ajouté au roman initial pas mal d'enjeux quand même et de personnages afin de nous éviter deux heures d'ennui. Mais sa mise en scène se veut résolument orientée vers la nature, principalement influencée par le film de Akira Kurosawa, Derzu Uzala. Le réalisateur n'y va pas avec le dos de la cuillère pour défendre ses ambitions écologiques. Dans les forêts de Sibérie, est-ce que l'on peut appeler aussi un film à drone ? Tous les plans d'ensemble, très réussi par ailleurs, sont filmés grâce à ces petites caméras volantes qui sont en train de pas mal révolutionner le cinéma. Ici, le recours au drone est totalement justifié, hein, puisqu'il sert le propos du film. La fluidité de la caméra permet de véritablement embrasser ces grands espaces et de les parcourir à toute vitesse en procurant ainsi aux spectateurs un sentiment de liberté très vivifiant. Le lac Baïkal, au bord duquel trouve refuge le personnage principal, est d'ailleurs le véritable héros du film. Ce lac situé au sud de la Sibérie constitue la principale source d'eau douce de la planète. C'est aussi le lac le plus profond que l'on trouve sur Terre. Et on peut dire que le film lui rend véritablement hommage en enchaînant plan sublime sur plan somptueux. Alors on pourrait croire qu'avec cette trame narrative plutôt pauvre, voire inexistante, le film trouverait assez vite ses limites, mais pas du tout. Le rythme reste efficace et on ne tombe vraiment jamais dans la contemplation pure et simple. Alors mieux vaut, c'est vrai, aimer Raphaël Personnaz, hein, qui est quand même de tous les plans, mais qui le fait très bien. Et d'ailleurs, pour info, l'acteur et le réalisateur vont continuer à travailler ensemble, mais alors dans un tout autre registre, puisqu'ils vont adapter au théâtre Scènes de la vie conjugale de Bergman. Aucun rapport. Voilà.
Donc finalement, c'est un film où Raphaël Personnaz fait des selfies devant le lac Baïkal, si on
comprend. Ah bah non, parce que
puisqu'il est tous les plans.
Mais non, parce que justement, il n'a aucune technologie. Il passe son temps à boire de la vodka et à lire des livres à la russe, quoi. À la russe.
Voilà,
il écrit à la lumière d'une bougie en buvant de la vodka. Comme tous les Russes. En fait, c'est vrai que c'est un peu le cliché qu'on a déjà eu. C'est lui, il rentre totalement dedans. Non, mais dans les forêts de Sibérie. Bref, très peu plaisanterie, je le conseille vraiment parce que c'est un très beau film. Moi, j'ai été assez surpris, je pensais que ça allait être très ennuyeux et pas du tout. Alors c'est magnifique c'est un très beau film.
Tu as cité Into the Wild, ce qui est un peu différent, c'est qu'Into the Wild, il y a une partie road trip quand même
avant. Et qu'il y a aussi pas mal de flashbacks, alors que là, pas du tout, en fait, à aucun moment, on voit sa vie en France. Et ça, j'ai trouvé que c'était un postulat de départ très intéressant. On ne voit aucun flashback, on ne voit rien de sa vie d'avant. Il ne communique jamais avec ses amis, sa famille. On ne sait pas vraiment ce qui l'a poussé à partir. Et ça, c'est très intéressant. C'est vraiment en Sibérie. Et c'est une unité de lieu et une seule.
Et nous passons de la Sibérie aux relations britannico-russes.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Avec un traître idéal de Susanna White, et voilà encore une adaptation de John le Carré, le romancier britannique, eh bien, fait sans doute partie des auteurs les plus adaptés au cinéma, alors au moins quand il s'agit d'espionnage ou de relations internationales. Une dizaine de ces histoires ont été transformées en scénarios pour le cinéma, avec plus ou moins de bonheur. Alors dernièrement, il y a eu Fernando Méreyes, qui s'est essayé avec beaucoup de réussite, me semble-t-il, à adapter de Constant Gardner en 2005, avec Ralph Fiennes en diplomate et Rachel Wells en militante altermondialiste, au Kenya. Il y a eu La Taupe de Thomas Alfredson en 2011 avec Gary Oldman, John Hurt et Colin Firth qui était là encore, me semble-t-il, une vraie réussite avec une subtile reconstitution de l'atmosphère des années 70 dans le monde des espions et des taupes. Et puis, il y a Anton Corbijn qui adaptait Un homme très recherché en 2013 avec Rachel McAdams, Willem Dafoe et le regretté Philip Seymour Hoffman. Alors là, dans une affaire difficile à expliquer en quelques mots où les services secrets se faisaient la guerre. L'intrigue se déroulait à Hambourg où John le Carré fut consul et agent du MI6 au début des années 60. Alors chacun de ces films ont laissé un souvenir, soit pour la lumière, la reconstitution, l'intrigue ou les acteurs. Autant dire que j'attendais qu'Un traître idéal, mis en scène par Susanna White, soit également un film à part. Mais rien de tout ça, et pire, elle rend platement classique une histoire comme on en a vu tant de traîtres voulant se caser de l'autre côté du mur quand il existait encore. Alors, en vacances à Marrakech, un couple d'Anglais fait la rencontre d'un millionnaire russe. Il se trouve qu'il blanchit de l'argent de la mafia dirigée par un type qui est un hipster version méchant. Sentant son heure arriver, le blanchisseur demande d'abord à l'homme de les aider. Il donne des renseignements de première main contre la protection de sa famille. Puis le couple est totalement partie prenante dans l'histoire et l'enjeu est de convaincre les services secrets anglais d'accepter l'offre et de rapatrier toute la famille russe. La difficulté, elle est politique car des députés anglais pourraient tomber pour corruption.
Venez boire un verre avec nous.
Il faut que vous m'aidiez.
Vous aidez, mais comment? Je suis enseignant.
Tenez ça à votre MI6. Dites-leur que c'est un cadeau de la part du numéro 1 du blanchiment d'argent de la mafia russe.
C'est tout ce qu'il vous a donné.
Oui.
Il vous dit qu'il fait partie de la mafia russe, et vous, vous l'aidez quand même.
Je pensais vous remettre la clé et terminer. Il a dit que si je l'aidais pas, ses enfants seraient tués.
Qu'est-ce qu'il veut?
L'asile pour lui et sa famille. Le problème, c'est qu'il ne veut négocier avec nous qu'en votre présence.
Je veux pas être impliqué.
Vous l'êtes déjà.
J'ai su une menace pour Moscou, pour le Kremlin. Je sais d'où vient l'argent.
Je veux la preuve que toutes ces personnes touchent des commissions.
Alors si l'intrigue suit son cours, la réalisatrice manque un peu de singularité dans son traitement. Le film d'espionnage disparaît parfois sous un vernis sentimental. Le russe parle sans cesse de sa famille alors que le couple d'anglais ne va pas très bien et que le chef des services secrets est séparé de son fils qui lui est devenu dealer. Il y a comme filtre de bons sentiments qui dépossède le film de sa saveur. Le questionnement est pourtant de taille. On oppose la parole donc d'un mafieux à la réputation de député anglais. Alors il y a une scène où le chef des services secrets, interprété par Damian Lewis, fait son couplet sur l'argent sale généré par les démocraties occidentales, mais cette scène est sabordée et apparaît isolée au milieu d'une histoire qui aurait mérité un traitement moins mièvre. Le scénariste de Drive a mis la main à la pâte, mais ça n'a pas suffi. Alors peut-être une preuve d'ailleurs que Drive repose davantage sur son réalisateur que son scénariste, c'est bien probable. À noter qu'il y a, alors que le mafieux russe est interprété par Stellan Skarsgård, c'est lui qui joue dans le film de Lars von Trier, Nymphomaniac.
Dans plusieurs, il me semble.
Dans plusieurs films dans de Lars von Trier, et notamment donc dans Nymphomaniac.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors, petite question, à votre avis, qui a composé la musique de film de La Proie de l'Autostop, un film de 1976?
Il va falloir des petits indices.
Alors déjà, il y a eu Ben Flesch.
Le compositeur le plus connu en Italie, évidemment.
Ennio Morricone.
Voilà, exactement.
Enrico Macias, j'ai failli dire.
Non, c'est pas Enrico Macias. Ni Adriano Celentano, mais bon. Ni Enzo Ramazzotti, enfin bon, il y en a des tonnes. Donc, La Proie de l'Autostop d'un film de Festa Campanile. Alors, Walter et Eve Mancini, un couple marié depuis 9 ans, sillonnent les routes de la Californie en caravane. Walter est un journaliste alcoolique, frustré et violent, rien que ça. Eve est une épouse, alors non pas soumise, mais indifférente, affichant intérieurement que du mépris pour son homme. Les vacances promettent, ils prennent en stop un malfaiteur fraîchement échappé de prison et leur périple, sans se transformer en cauchemar, puisque leur vie de couple est déjà un cauchemar, prend une tournure inattendue. Alors souvent décrié, même par les aficionados du cinéma d'exploitation, le rap and revenge est un sous-genre excessif et hétéroclite explorant les aspects les moins reluisants de l'humanité qui mêle alors le film d'horreur, le vigilant movie et le survival. Alors le tout sur fond de sexe et de violence exacerbée. Un cocktail qui tue en somme, propre à faire fuir les amateurs d'un cinéma consensuel. Alors La Dernière Maison sur la Gauche, Day of the Woman ou encore Thriller A Cruel Picture représentent quelques spécimens archétypaux d'une catégorie de films crapoteux et ambigu. Les Italiens, toujours à l'affût des tendances à la mode, n'ont pas attendu longtemps pour s'emparer du genre avec une série de films crapoteux dont Le Dernier Train de la Nuit, Terreur Express, La Dernière Maison sur la Plage et La Maison au Fond du Parc. Tout un programme ce titre.
Non, oui, vraiment, on se demande Qu'est-ce qu'un film crapoteux, mais bon.
Bon, bah, il faut le voir, c'est tout. Hein. Alors, auquel il faut ajouter cette proie de l'autostop, curieux projet d'un des dignes représentants de la comédie italienne. Alors, Fausta Campanile change radicalement de genre et de style, s'éloignant de ses remarquables comédies olé olé telles que Ma femme est un violon ou L'amour à cheval. Mais il reste fidèle à ses thèmes de prédilection, à savoir l'étude de mœurs sur les rapports hommes-femmes, se transformant en véritable guerre des sexes. Cela dit, la proie de l'autostop n'est pas vraiment un rap and revenge. Fausta Campanile en épouse la forme outrée, sans concession, mais s'éloigne de l'idéologie parfois douteuse pour verser dans la farce grotesque. Alors l'aspect fauché, les effets de style clinquants, les gunfights sanglants à la sauce Peckinpah et les scènes de sexe gratuites pourraient rebuter en apparence, mais dessinent en filigrane le projet caustique du réalisateur, réalisé un pur bis sous-tendu par un récit nihiliste. Alors s'écartant des codes du rap and revenge classique, la proie de l'autostop est un thriller ironique, reprenant de façon détournée le triangle mortel de la femme, le mari et l'amant, traité sous la forme d'un road movie dégénéré. Mais au lieu de sublimer ses héros, comme dans n'importe quel classique du film noir des années 40, Campanile les affadit en soulignant la cupidité, la pingrerie et l'égoïsme des personnages, alors surtout masculins. Le film de Campanile n'est au fond qu'un portrait de deux hommes lamentables, obsédés par l'argent facile, animés de pulsions sexuelles primaires et dénués d'empathie pour son prochain. Le réalisateur renvoie dos à dos l'honnête citoyen et l'assassin multirécidiviste. Le point de vue misandrique peut choquer, mais révèle surtout la forte personnalité d'un cinéaste radical qui se sert d'un genre pour mieux le subvertir de l'intérieur. Alors on écoute un petit extrait qui est assez éclairant sur la personnalité des deux personnages principaux.
Dis donc, reporter, j'ai une idée géniale.
Toi, une idée géniale? On aura tout vu.
J'ai bien envie de t'engager.
Qu'est-ce que tu proposes?
Un travail. Travaille avec moi. T'auras pas à le regretter.
Faudra tuer qui?
Ah, faudra tuer personne. Je veux que tu écrives un bouquin. Je te donne 50 ou 100 000 dollars. Ne tourne pas la tête, espèce de salope. Écoute, accompagne-moi au Mexique. Toutes dépenses payées, 100 000 dollars. Le bout du monde. On pourra inviter Eve, histoire de se la faire à deux. Elle aimera. Voilà, voilà son père chéri.
Quel bouquin?
Un livre sur moi? Non, j'ai plein de choses à dire.
Et pour qui tu te prends?
Al Capone, Dillinger.
Allons donc, t'es qu'un petit tueur et personne ne s'intéresse à ton histoire.
C'est plein d'eau dans ta tête. C'est plus pareil si un reporter raconte l'histoire exceptionnelle. Une histoire à laquelle il a démêlé de près. Ça fait des années que tu cherches une exclusivité pour te sortir de la merde, non? Regarde-moi. Adam peut te sortir de la merde.
Alors un film remarquable à redécouvrir, servi par l'excellente musique d'Ennio Morricone, qu'on a écouté en intro, qui crée un vrai rythme et une tension palpable. Alors cette vision pessimiste de l'humanité est portée par l'interprétation borderline de Franco Nero, loin de sa sobriété légendaire, hein, notamment dans le fameux Django. Seul bémol, ses deux partenaires, Corinne Clery, est une actrice limitée, que l'on a vue dans des films érotiques, notamment Histoire d'eau. Alors son jeu se résumant à deux, trois expressions, mais au moins elle dévoile ses charmes à plusieurs reprises, de quoi satisfaire le petit voyageur qui sommeille en nous. Quant à David Hess, l'acteur principal de La dernière maison sur la gauche, il est tout simplement exécrable. Ce qui, paradoxalement, confère à son personnage une dimension ridicule plutôt raccord. Alors, le film présenté dans une très belle copie, un sort chez Artus, accompagné d'un excellent livret sur le Rap and Revenge, d'une cinquantaine de pages, hein, écrit par David Didlot, qui a aussi écrit un superbe bouquin sur un des réalisateurs les plus nuls du monde, Bruno Mattei. Voilà. Alors, David, tu avais une question.
Qu'est-ce que le sous-genre du Vigilant Movie?
C'est le film d'autodéfense, comme un justicier.
Comme un survival? Non.
Le Vigilant Movie, non, c'est vraiment le film d'autodéfense. Hein, c'est un justicier dans la ville. Il y a un film qui s'appelle Vigilant, tout simplement.
Un héros qui est...
Voilà, le citoyen honnête qui se retrouve à venger les meurtriers de sa femme et de ses enfants, par exemple. C'est tout simple. Mmh. Il y en a eu des tonnes dans les années 70, d'accord, début 80.
Et Rap and Revenge, c'est viol et vengeance en français.
Voilà, c'est un peu
ça.
Oui, oui. Voilà.
On aura tout dit.
C'est généralement pareil. Bon, là, il s'en détourne. C'est un peu différent, ce film-là. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de films comme Day of the Woman. C'est le cas typique. C'est une fille qui se fait violer. Elle est laissée pour morte et elle va se venger. Tarantino l'a repris, oui, de ce genre, d'ailleurs, dans Kill Bill. Hein.
Et Boulevard de la Mort.
Et Boulevard de la Mort aussi, oui.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine dans Cinérama, nous écouterons un réalisateur chilien, Marine.
Oui, Christian Jiménez, que j'ai interviewé pour son prochain film Voix Off, qui sort la semaine prochaine. Et je crois que je vais vous parler de Camping 3, hein. Il me semble que, que le temps est venu.
C'est l'été.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Y a pas de saint, y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.